France Culture.
Et le journal, c'est avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Des incendies dévastateurs, mais aussi des inondations meurtrières. Les conséquences du réchauffement climatique ont été particulièrement dramatiques dans le monde le mois dernier, soit le troisième mois de juin le plus chaud jamais enregistré. On se rendra en Ukraine après une nouvelle offensive massive russe la nuit dernière. On parlera également de la disparition d'un lieu emblématique en Haïti, victime de la violence des gangs. Et puis en France, on tâchera notamment de comprendre ce qui a bien pu conduire à une vague dramatique de suicides depuis le début de l'année chez les fonctionnaires de l'administration fiscale. Poussés par les vents, les flammes avaient fini par lécher hier la deuxième ville de France. Plus de 750 hectares parcourus au total jusqu'aux portes de Marseille. Alors depuis ce matin, le feu a nettement baissé en intensité, mais les lisières sont toujours actives. Et puis, à l'autre bout du littoral méditerranéen, cette fois-ci près de Narbonne, dans l'Aude, département touché par 3 feux de forêt en seulement une semaine, là-bas ce sont plus d'un millier de pompiers venus de tout le pays qui continuent toujours à lutter activement. Et c'est ainsi que l'ensemble de l'arc méditerranéen qui va des Pyrénées-Orientales au Var est aujourd'hui classé en risque incendie élevé ou très élevé. D'où cette question. Tous ces brasiers qui en quelques heures ont déjà dévoré des milliers d'hectares dans le sud de la France sont-ils le prélude à un été à haut risque? Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
En réalité, la question se pose même désormais partout, de l'autre côté de la frontière, en Catalogne, jusqu'en Syrie, mais aussi en Californie, à peine remise des incendies qui ont dévasté Los Angeles. Là-bas, un gigantesque feu de forêt, le plus vaste depuis le début de l'année, progresse actuellement à 350 km au nord de la Cité des Anges, après avoir déjà consumé plus de 32 500 hectares. Et un facteur en particulier est quasi systématiquement pointé du doigt, Véronique, une vague de chaleur exceptionnelle, à la fois intense et précoce.
Et surtout, une vague de chaleur en chasse une autre désormais en Europe de l'Ouest. Le mois de juin qui a été marqué par 2 vagues de chaleur exceptionnelles entre le 17 et le 22 juin, puis à partir du 30 juin. 2 vagues consécutives avec localement et régulièrement des records de température, 40 degrés dans plusieurs pays, dont la France, jusqu'à 46 degrés en Espagne et au Portugal. Au nord de Lisbonne, la température ressentie qui mesure l'impact sur le corps humain en tenant compte de l'humidité et du vent, a même atteint 48 degrés, ce qui correspond à un stress thermique extrême, particulièrement difficile à supporter, notamment dans les grandes villes et capitales, Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Athènes. L'acropole est à nouveau fermée aux touristes ce matin en raison d'une vague de canicule qui frappe la Grèce, 41 degrés dans plusieurs régions du pays, avec là aussi un risque extrêmement élevé d'incendie. La protection civile grecque a placé en état d'alerte maximum une grande partie de la région d'Athènes, ainsi que l'Attique, le centre et le Péloponnèse au sud.
Des incendies, je l'évoquais, qui se multiplient partout aujourd'hui.
Vous l'avez dit, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, en Californie et aussi dans certaines régions du Canada en ce moment. Ça brûle déjà en France, bien sûr, en Espagne, où l'incendie de Tarragone est toujours actif, en Syrie, où des feux de forêt font rage depuis 6 jours dans la province côtière de Latakié. Des terres agricoles aussi sont la proie des flammes et plusieurs localités ont dû être évacuées. La Syrie qui demande de l'aide à l'Union européenne pour combattre ces incendies. Évidemment, dans tous ces pays, on s'attend à un été encore plus compliqué sur le front des feux de forêt, qui, s'ils sont en plus concomitants, ne permettront pas de mutualiser en Europe les moyens d'intervention pour combattre, bien sûr, ces incendies.
Merci Véronique Robérotte. Au Texas, 5 jours après les inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts, les équipes de secours poursuivent sans relâche leurs recherches afin de retrouver des survivants, même si l'espoir est désormais réduit à peau de chagrin. Au moins 161 personnes sont toujours portées disparues. Après un premier dîner lundi soir, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont à nouveau rencontrés hier dans le bureau ovale. Cette fois-ci, un entretien d'un peu plus d'une heure sans qu'aucune solution n'ait été avancée pour mettre fin à la tragédie de la guerre à Gaza et plus encore l'enfer dans lequel vivent les Palestiniens assiégés, affamés et privés de tout depuis 21 mois. Et puis Donald Trump, toujours lui, a accusé hier Vladimir Poutine de dire, je cite, beaucoup de conneries à propos de l'Ukraine. L'expression sans doute d'une certaine frustration à l'égard de son homologue russe et de la poursuite de la guerre à laquelle le président américain avait promis de mettre fin en 24 heures. Et c'est donc dans ce contexte de totale impasse diplomatique que la Russie a lancé la nuit dernière sa plus grande attaque de drones et de missiles depuis le début de l'invasion. Les précisions depuis Kiev de Bastien Bory.
Frapper l'Ukraine en profondeur, tel a été le message adressé cette nuit à l'ouest du pays, tout près des frontières de l'Union européenne. Il est 23h hier soir, le Kremlin apprend que Washington veut expédier de nouvelles armes défensives à Kiev et déjà, plusieurs avions MiG-31 décollent. En l'espace de 4 heures, 6 missiles balistiques, 7 missiles de croisière et 741 drones kamikazes sont lancés, deux fois plus que jeudi dernier, précédent record de l'attaque russe la plus vaste en 3 ans de guerre. Et cette fois, c'est la ville de Loutsk qui paie le prix d'une nuit de sirènes incessantes à 80 km seulement de la Pologne, où l'armée de l'air fait décoller plusieurs chasseurs. Au matin, le président Zelensky se félicite du pourcentage d'interception de la défense aérienne ukrainienne. L'ensemble des missiles russes et 711 drones auraient été neutralisés, mais d'autres ne sont pas du même avis. Près des lignes de front, 5 personnes sont mortes et 39 autres sont blessées. Pendant ce temps, Donald Trump confirme une aide militaire renouvelée aux forces ukrainiennes sans donner de chiffres, à 2 jours d'une visite du ministre russe des Affaires étrangères en Corée du Nord, premier fournisseur d'armes de Moscou.
Et j'ajoute que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui arrivé à Rome ce matin pour des entretiens prévus avec le pape et le président de la péninsule. Il était célèbre pour ses jardins luxuriants, souvent décrits comme un lieu mythique. Il avait aussi attiré de très nombreux artistes, intellectuels et hommes politiques du monde entier et même inspiré un roman de Graham Greene. Seulement voilà, le grand hôtel Olofsson, emblématique en Haïti, véritable joyau architectural du 19e siècle, n'aura pas résisté à son tour à la longue descente aux enfer dans laquelle se meurt le pays, en proie à la violence des gangs criminels qui partout sèment la terreur et ont donc entièrement incendié l'édifice. C'était samedi dernier où, quand ce lieu de mémoire, lequel avait jusque-là survécu au coup d'État, aux dictatures et même au tremblement de terre dévastateur de 2010, s'ajoute à la liste incommensurable au Marwaman des endroits effacés par la fureur des gangs.
L'hôtel Olofsson était bien plus qu'un hôtel. Situé dans le centre de Port-au-Prince, c'était l'un des hauts lieux de la vie culturelle de la capitale, la fierté des Haïtiens, avec ses tourelles et balcons en bois. Il a été totalement détruit à la suite d'un incendie attribué aux gangs qui contrôlent la zone. Hervé Noël est journaliste à Radio Keskeya à Port-au-Prince.
Tout cela est parti en fumée, tout a été détruit. C'est un sentiment de révolte, c'est un sentiment d'indignation, un coup de massue pour tous.
La destruction de l'hôtel Olofsson révèle encore une fois l'impuissance de la police haïtienne à mettre fin à la violence et pose également la question du rôle de la force multinationale dirigée par le Kenya et déployée depuis un an en Haïti. De plus en plus de voix mettent en cause son efficacité. Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au RNDDH, le Réseau National de Défense des Droits Humains.
On a l'impression qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas le terrain. On ne les voit pas non plus dans les rues. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que pour nous, au RNDDH, ils nous donnent l'impression de rester tout simplement dans leur base.
Et pendant ce temps, les gangs renforcent jour après jour leur contrôle de la capitale haïtienne, où un total effondrement de la présence de l'État pourrait devenir un scénario bien réel, alerte l'ONU.
Après avoir été accueilli par le roi et surtout comme un roi, finit le faste de Windsor, ses processions en calèche et l'opulence de ses banquets. Au deuxième jour de sa visite d'État, le président Emmanuel Macron déjeunera ce midi avec le premier ministre britannique Keir Starmer. Au menu, la politique migratoire transmanche, la coopération dans le nucléaire civil, sans oublier le partenariat militaire. Les résultats du baromètre 2025 publié ce matin sont absolument sans appel. Près de 50% des régions, départements, communes et métropoles en France ont diminuer leur budget consacré à la culture, un fléchissement généralisé en même temps qu'une rupture historique. La preuve aussi que dans un cadre budgétaire contraint, la culture a décidément tendance à devenir une variable d'ajustement, et ce d'ailleurs quel que soit le bord politique. Le premier choc remonte au 10 janvier dernier, c'est alors le début d'une dramatique série noire, une vague de suicides au sein de l'administration fiscale. Ces 6 derniers mois, pas moins de 13 agents ont mis fin à leur jour et 8 autres ont tenté de le faire. Alors bien évidemment, les raisons d'un suicide sont généralement multiples, mais au-delà des circonstances diverses, une question se pose malgré tout. Ces actes constituent-ils le symptôme d'une crise, ou dit autrement, ces suicides sont-ils liés au travail, ou au moins en partie? Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
La situation inquiète profondément direction et syndicats, qui ont évidemment des regards assez différents sur ces drames. Hier, le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet.
Oui, lors d'une audition à l'Assemblée nationale des députés, l'ont donc interrogé. Ce sont des drames individuels. Nous ne voyons pas dans le dialogue que nous avons avec les collaborateurs et avec les syndicats qu'il y ait de raisons particulières liées à l'organisation ou aux missions de cette grande direction de Bercy qui puissent expliquer cela. Donc c'est une situation que nous suivons, que je n'estime pas liée à des raisons ni d'organisation, ni de charge de travail, ni de management.
Pourtant, Amélie Verdier, la directrice de la DGFiP, parle de traumatisme pour tout le collectif. Les syndicats attendaient aussi autre chose des propos du ministre de tutelle, Florence Boknakian, déléguée finances publiques de la CFDT.
On va dire que le propos, au mieux, est maladroit, mais il est surtout, il n'est pas très responsable. L'ambiance n'est pas des meilleures. Il y a de la fatigue, il y a de l'inquiétude, il y a plein de choses. Mais on a surtout des agents de la DGFiP qui disent on est soumis dans notre activité à des risques psychosociaux. Mais il faut qu'on se penche sur le pourquoi. Il faut qu'on se pose la question de savoir comment ça se passe dans l'organisation.
Car pour la représentante syndicale, les agents de la DGFiP ont été soumis à des bouleversements profonds.
Les réorganisations à rythme insupportable. Il y a un changement de règles, c'est non-stop. C'est de l'arbitraire, c'est de l'absence de transparence. On a véritablement, les gens se sentent déshumanisés. Et en plus, c'est une population qui a le sens du service public, qui est fière de ce qu'elle fait. La DGFiP a toujours été une bonne élève, elle a toujours été très fière de son activité. Elle ne l'est plus, elle ne peut plus.
Une réunion est d'ailleurs organisée sur le sujet cet après-midi à Bercy.
Merci Wafia Kenich. Faut-il y voir le reflet d'une plus grande angoisse chez les parents comme les étudiants et les enseignants ou bien la preuve d'une meilleure visibilité donnée à la médiation au fil des ans? Toujours est-il que le nombre de demandes effectuées auprès des médiateurs de l'éducation nationale, souvent pour des questions financières telles que l'accès aux bourses, a bondi l'an dernier. 23 700 saisines au total, en hausse de 16% sur un an et même le double en 5 ans selon un rapport annuel publié ce matin. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous êtes en direct du ministère de l'Éducation nationale. Sait-on qui fait aujourd'hui le plus de réclamations et quels sont par ailleurs, Hakim, les sujets d'inquiétude les plus partagés?
Eh bien, Thomas, concerne surtout en fait les élèves du second degré, hein, 49% de réclamations, et particulièrement les élèves des filières technologiques comme STMG et de Bac Pro qui ne trouvent pas forcément l'établissement ou bien les spécialités qu'ils ont choisies à la rentrée, comme nous l'explique Catherine Beghetti-Bizot, la médiatrice de l'Éducation nationale.
En STMG, on sait qu'il y a eu des fermetures de classe parce qu'on avait constaté que c'était une série qui ne débouchait pas sur des études supérieures, qui avait des problèmes de débouchés, qui avait beaucoup trop d'élèves qui s'inscrivaient dans ces sections. Donc on a réduit le nombre de places, mais les conseils de classe ont continué à orienter les élèves en fin d'année vers. Donc on se retrouve avec des difficultés de ce type. C'est aussi beaucoup dans l'enseignement professionnel puisqu'il y a des contraintes de places, d'équipement, des postes de travail qui font que parfois les vœux des élèves ne sont pas satisfaits et qu'on les oriente vers une autre spécialité alors que c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire.
Des difficultés qui concernent aussi les élèves en situation de handicap, a tenu à rappeler la médiatrice, avec par exemple des candidats au baccalauréat ou au brevet des collèges, qui n'ont pas forcément les aménagements de poste dont ils auraient besoin. La médiatrice qui dénonce aussi les lourdeurs administratives, avec par exemple des collégiens en situation de handicap, qui lorsqu'ils doivent déménager, ne retrouvent pas dans leur nouvel établissement la LV1 ou LV2, anglais, allemand, espagnol, qu'ils avaient choisi. Pour autant, la médiatrice tient à rappeler que sur les 23 700 réclamations qu'elle a reçues, 79% d'entre elles ont trouvé une issue favorable.
Merci Hakim Kasmi en direct donc du ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'à Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Plusieurs perquisitions ont été menées ce matin au siège du Rassemblement national ainsi qu'au domicile de leurs dirigeants dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'escroquerie, en particulier le financement possiblement illicite des campagnes présidentielles et législatives de 2022. Le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, a aussitôt dénoncé un acharnement. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le soleil s'imposera partout, à l'exception du nord-est, où quelques nuages pourront encore jouer les troubles faits. Quant aux températures, elles seront comprises entre 19 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Denré pour le prochain journal de la rédaction.